Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une ce matin le véritable top départ de la campagne présidentielle. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon vont tenir meeting aujourd'hui. De quoi se jauger et se juger. À droite, la candidate LR, Valérie Pécresse, va se lancer dans un Tour de France. On y revient après les autres titres.
On en parlait à l'instant, il prônait la sobriété heureuse, l'agroécologie et dénonçait la société de consommation. Pierre Rabhi, le paysan philosophe, est mort à l'âge de 83 ans. Le modèle Uber n'était vraiment pas le sien, mais Uber a 10 ans aujourd'hui et ses chauffeurs sont définitivement dans notre paysage. Nous ferons le bilan. Nous ouvrirons aussi une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent, un CD baptisé Bubbles comme un air de fête. Champagne à Bordeaux, là on parle de sport. Bordeaux qui prend la première place du top 14 de rugby. On y reviendra à la fin de ce journal avec Jean-Pierre Blémaux.
Grosse actualité politique, vous l'avez dit. À 8h20, notre invité sera politique, l'eurodéputé Rassemblement National, Philippe Olivier.
France Inter. Ils ont tous savamment choisi leur calendrier pour rendre leur campagne la plus visible possible. Valérie Pécresse représentera donc les Républicains pour la présidentielle. Celle qui se définit comme une dame de fer, F-A-I-R-E, promet un projet de franche rupture et de restaurer la fierté française. C'est pour détourner l'attention d'une partie de ses électeurs qu'Éric Zemmour, lui, a choisi ce dimanche pour tenir son premier grand meeting à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, et non pas au Zénith comme prévu initialement, Élodie Forêt.
Les autres gèrent le trop peu, nous on gère le trop plein, aime répéter l'entourage d'Éric Zemmour qui, pour justifier le changement de salle, a prétexté le nombre d'inscrits, 19 000 quand le Zénith ne compte que 6 000 places assises. L'histoire est en fait un peu différente. L'équipe du candidat qui depuis des jours travaillait à surbooker la salle voulait aussi occuper le parvis du Zénith, demande rejetée par la préfecture de police pour des raisons de sécurité alors qu'une importante manifestation anti-Zemmour est prévue. Direction Villepinte donc, plus grand, plus facile à sécuriser. Villepinte, c'est aussi un symbole, là où Nicolas Sarkozy a tenu un énorme meeting en 2012. Chez les gens de droite, ça touche une corde, reconnaît un conseiller du RN. Une démonstration de force donc, avec 449 journalistes accrédités et quelques personnalités pour désamorcer la critique sur la faiblesse de l'entourage. Au premier rang, tout ce que la droite compte de plus conservateur, Christine Boutin, Jean-Frédéric Poisson ou la présidente du mouvement conservateur, anciennement Sens Commun, Laurence Trochu, ont confirmé leur venue.
Démonstration de force attendue aussi chez les Insoumis. Jean-Luc Mélenchon est en meeting à la Défense. Sur la forme, cette fois, on s'interroge face à la cinquième vague de Covid. Ces grands rassemblements sont autorisés, mais il ne faudrait pas qu'ils tournent au cluster, Maxence Lambrecq.
Plus de 3000 personnes attendues à 14h dans l'espace Grand Arche de la Défense autour de Jean-Luc Mélenchon. Et une heure plus tard, plus de 15 000 personnes seront au parc des expositions de Villepinte pour Éric Zemmour. Il n'y aura ni jauge, ni passe sanitaire. Parce qu'un rassemblement politique n'est pas un spectacle aux yeux du Conseil constitutionnel. Il fait vivre la démocratie, permet aux citoyens d'éclairer leur vote.
Nous ne pouvons pas conditionner l'accès à un meeting politique au pass sanitaire de manière obligatoire.
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Nous respectons évidemment toutes les décisions du Conseil constitutionnel qui sont rendues, c'est le gardien de notre Constitution. Maintenant, rien n'empêche un organisateur d'une réunion politique d'exiger le pass sanitaire pour y accéder.
Le verbe « exiger » n'est en fait pas adapté, car les organisateurs peuvent demander le pass, mais n'ont pas le droit d'exclure du meeting ceux qui ne l'ont pas. Lundi dernier, à l'entrée de la Mutualité à Paris, le parti présidentiel demandait le pass sanitaire. C'est une évidence, dit un organisateur. Zemmour et Mélenchon prennent un énorme risque. Le risque du cluster géant et de la polémique qui va avec. Mais tout le monde aura un masque, prévient l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. On ne fait qu'appliquer la loi. Ce qui nous inquiète, c'est le taux de vaccination dans le public d'Éric Zemmour, lâche un conseiller ministériel, et leur propension à garder le masque pendant 2 heures.
Valérie Pécresse, elle renonce à son grand meeting d'investiture samedi prochain à Paris. Ce ne sera pas en présentiel. Elle réfléchit à d'autres options.
On ne peut pas détruire la Terre et survivre. C'était la conviction donc de Pierre Rabhi, le pionnier de l'agroécologie. Il est mort hier, il avait 83 ans.
Oui, il avait théorisé le colibri face à un incendie de forêt. Ce tout petit oiseau s'active en ramenant quelques gouttes d'eau dans son bec et face au sarcasme des autres animaux, il conclut « Je fais ma part ». Sa part à lui, c'était le néo-ruralisme. Il prenait la simplicité et l'humilité face à la nature. Écoutez-le au micro de Léa Salamé, c'était il y a 2 ans sur France Inter.
J'ai fait un retour à la Terre il y a 50 ans par protestation en quelque sorte, à la fois pour, par commodité pour ma propre existence et celle de ma famille, vivre dans la nature et non pas dans du hors-sol urbain. Et puis, s'est construite une sorte de philosophie, un point de vue qui est ce qu'il est, par rapport à l'humanité et par rapport à ce qu'elle représente. Et je suis en train de rédiger un texte que j'appelle « La tristesse de Gaïa ». C'est-à-dire que je prends la planète Terre, je lui donne une espèce de, comment dire, de personnalité, et je la fais parler en quelque sorte.
Et elle est triste.
Elle est triste, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est une anecdote de Gorbatchev qui dit qu'il y a une planète de l'espace qui un jour rencontre la planète Terre. Elle la regarde, oh ma pauvre, comme tu es dépenaillée, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu sens mauvais, etc. Ne m'en parle pas, j'ai attrapé l'humanité. Ah, ce n'est que ça, je l'ai attrapé, je m'en suis guéri et tout va bien. Donc j'aimerais pas qu'on aboutisse à cela.
Les mots et les métaphores de Pierre Rabhi. Yannick Jadot, le candidat écologiste, salue un précurseur. Le réalisateur Cyril Dion affirme avoir perdu un grand frère. Mais Pierre Rabhi était aussi critiqué pour son admiration du divin ou pour ses prises de position conservatrices sur ce que doit être le modèle familial. Eux aussi, à leur manière, sont des colibris. C'est la journée mondiale du bénévolat. En France, 12 millions d'anonymes donnent de leur temps aux autres. C'est le cas par exemple à la Banque Alimentaire. Dans le Gard, l'association compte 120 bénévoles et il faut encourager les vocations, comme le souligne Gérard Quittard, le vice-président de l'association.
Je pense que l'éducation au bénévolat devrait faire partie de l'éducation à la citoyenneté. C'est-à-dire que dans les parcours d'enseignement, on parle beaucoup des professions, des métiers, mais il faut aussi se dire que la société, c'est pas qu'un monde de producteurs et de consommateurs, c'est aussi un monde d'acteurs et de citoyens. Et je pense que là, il y a une fibre qu'on peut faire vibrer dans le monde des jeunes. Les jeunes, ils sont à l'image de la société, c'est-à-dire il y a quand même une recrudescence de l'individualisme au détriment de l'intérêt général. Mais moi, j'ai 75 ans, je désespère pas que la génération qui arrive puisse se mobiliser comme on l'a fait. Mais on est dans un autre contexte. J'ai vécu dans un milieu populaire, près d'une paroisse, il y avait là des fondamentaux qui alimentaient l'esprit citoyen dans lequel on pouvait s'embarquer. Aujourd'hui, je pense qu'il manque un volet d'éducation à la citoyenneté dans le parcours éducatif.
Engagez-vous, c'est le message de Gérard Quittard qui était interrogé par Hervé Salafranc de France Bleu Gard-Lozère. Le pape François à Lesbos en Grèce qui accueille dans des conditions très difficiles des milliers de migrants, il les désigne comme les protagonistes d'une terrible odyssée moderne et le pape regrette que l'Europe tergiverse sur l'accueil à leur accorder. À l'étranger, les États-Unis et leurs alliés dont l'Union Européenne accusent le régime taliban en Afghanistan de mener des exécutions sommaires contre d'anciens membres des forces de sécurité afghanes. Ces violations des droits de l'homme contre reviennent à l'amnistie que les fondamentalistes avaient annoncée au départ.
Voilà 10 ans que leurs berlines noires se sont imposées dans nos villes.
Oui, Uber a 10 ans. On dit les Uber maintenant, comme les taxis. On parle d'ubérisation de l'économie pour dénoncer un modèle low cost. Alors faisons le point sur ce qu'Uber a vraiment changé dans nos vies. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Uber a changé beaucoup de choses pour le pire et le meilleur.
Oui, exactement. Si Uber peut se vanter d'avoir transformé la mobilité dans les grandes agglomérations et d'avoir inventé cette mise en relation en quelques secondes, en un seul clic, les associations environnementales pointent de leur côté 10 ans plus tard l'impact écologique de ces dizaines de milliers de véhicules qui circulent dans les grandes villes. 350 millions de trajets réalisés en France ces 10 dernières années. Alors Uber communique évidemment sur ses engagements à passer à l'électrique. De la même façon, les 5 millions d'utilisateurs français semblent ravis d'avoir vu le monopole des taxis s'effondrer du jour au lendemain. 10 années plus tard, les taxis se sont adaptés, modernisés et ne se sentent plus du tout en danger face à cette ubérisation.
Oui, mais 10 ans après sa naissance, le modèle Uber reste juridiquement faible et le statut de ses chauffeurs contesté dans le monde entier.
Oui, de nombreux pays européens ont entamé des procédures de requalification de contrats de travail ou interdit la plateforme quand elle le pouvait. C'est le cas de la ville de Bruxelles la semaine dernière. La Commission européenne travaille de son côté à un texte pour redéfinir le statut, la relation de dépendance entre les travailleurs et toutes les plateformes. En France, les syndicats ont déjà un pied dans la porte avec la création d'une nouvelle autorité. Des élections professionnelles auront lieu pour négocier des accords de branche un peu partout sur la planète. On ne peut pas dire que les prochaines années d'Uber ressemblent à un long fleuve tranquille.
Laurent Kramer, et c'est le moment d'ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent de France Inter. Jusqu'au 24 décembre, le service culture vous propose des pépites à mettre sous le sapin. Ce matin, Stéphane Capron, le CD Bubbles de la pianiste Dana Ciocarli. Elle a invité autour d'elle tous ses amis pour un disque tout ce qu'il y a de pétillant, bien au-delà du répertoire classique.
Lettres d'âmes qui jouaient du bugle tard dans leur salle de bain.
C'est Philippe Catherine avec Poulenc qui ouvre ce disque réjouissant que Dana Ciocarli a conçu comme un banquet entre amis.
Qu'est-ce que ça pourrait être en musique, l'ambiance d'une fête? C'est presque un film, je dirais, où on retrouve des amis depuis longtemps ou des amis récents. En même temps, des souvenirs d'enfance, une certaine philosophie de vie, de la joie de vivre, de la joie des bonnes choses, des repas, des champagnes, des bons vins.
C'est un disque à offrir à tous les amoureux de musique, car il va de Gilbert Bécaud à Piazzolla en passant par Satie. Dana Ciocarli pense même qu'il peut convenir à un public plus métal.
Le morceau country avec Gilles Lapape, ça peut interpeller le fan de n'importe quelle musique de hard rock. Mais je fais écouter plein de personnes qui ne sont pas du tout inclinées vers la musique classique et ils étaient enchantés. Ils se retrouvaient même en playlist de plusieurs fêtes de mariage.
Et les fans de Juliette Armanet seront heureux. Elle interprète de façon magistrale dans l'album une chanson de Kurt Weill.
Il me suffira de voir ton bonheur. Il me suffira de voir ton sourire. Compte-moi.
Juliette Armanet, Julie Depardieu, Philippe Catherine, sacrée distribution pour ce Bubbles.
Et dans le calendrier de l'Avent, j'ouvre la case des sports.
Bonjour Jean-Pierre Blimeau.
Bonjour Christelle.
Assuré de finir l'année champion d'automne, le PSG a quand même eu chaud hier soir à Lens et peine toujours à séduire, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, les Parisiens ont arraché un nul un partout dans le temps additionnel. Alors la défaite à domicile de Marseille face à Brest fait que Paris est assuré de virer en tête à la mi-championnat, mais le club de la capitale et ses stars peinent toujours à séduire Alexandre Vaux.
L'ambiance volcanique du Stade Bollard hier soir, le PSG a été bousculé comme rarement depuis le début de la saison. Le milieu de terrain italien Marco Verratti.
Je pense que le championnat français, c'est un championnat très très physique. C'est dur parce qu'on joue tous les trois jours, c'est dur d'être toujours prêt. Mais on est première, on ne laisse jamais rien et ça c'est bon pour le futur.
Hier encore, le PSG est parvenu à égaliser sur le fil en s'appuyant sur ses remplaçants, dont Kylian Mbappé, passeur décisif. Depuis le début de la saison de Ligue 1, Paris a glané 16 points après avoir été mené au score. Un record. Le problème, c'est que les Parisiens ne progressent pas pour Eric Rabessandratana, consultant football de Radio France.
Le talent, à un moment donné, a ses limites. Si on prend en termes d'efficacité, Paris n'a perdu qu'un match, mais ça ne veut rien dire presque, parce que l'adversité, elle est quand même tellement loin par rapport à ce PSG-là. Donc le Paris Saint-Germain est tout seul avec son talent. Du coup, ça ne le pousse pas à se transcender et à changer un petit peu d'état d'esprit. Et malheureusement, ça nous donne des spectacles comme trop souvent du côté du Paris Saint-Germain.
À bientôt mi-championnat, le PSG n'a toujours pas battu d'équipe du top 5 en Ligue 1, son seul fait d'arme étant sa victoire à domicile en Ligue des Champions contre Manchester City 2-0 il y a plus de 2 mois.
Alexandre Vaux à Lens pour France Inter.
Et le suspense reste entier au championnat du monde de Formule 1.
Il reste 2 grands prix. Le premier d'entre eux, c'est à Jeddah en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, le Néerlandais Max Verstappen est en tête du classement des pilotes. Il vise un premier titre et pour l'obtenir dès ce week-end, il doit marquer 18 points de plus que le Britannique Lewis Hamilton. Le mode d'emploi de ce duel, Fabrice Abgral.
Il y a 4 scénarios possibles en tenant compte ou non du point de bonus du meilleur tour en course. S'il décroche ce point, Verstappen sera champion du monde à condition qu'il s'impose et qu'Hamilton ne termine pas dans les 5 premiers, ou que Verstappen finisse 2e et qu'Hamilton termine au-delà de la 9e place. S'il n'obtient pas le point du meilleur tour en course, le Néerlandais décrochera le titre à condition qu'il l'emporte et que le Britannique se classe au-delà de la 6e place ou qu'il finisse 2e et qu'Hamilton ne marque aucun point. Dans tous les autres cas de figure, le titre se jouera dimanche prochain à Abu Dhabi. Lewis Hamilton peut encore mathématiquement décrocher un 8e titre mondial. S'il y parvient, il dépassera alors Michael Schumacher pour détenir seul le record du nombre de couronnes mondiales. Verstappen, lui, peut devenir le premier Néerlandais néerlandais, sacré champion du monde. En attendant, il détient deux records de précocité. Il a débuté la Formule 1 en 2015, alors qu'il n'avait que 17 ans. Et en 2016, il est devenu à 18 ans et 227 jours le plus jeune pilote vainqueur d'un Grand Prix.
Fabrice Amgral, et c'est Lewis Hamilton qui partira en pôle. Et puis un grand bravo, Christelle, au rugbyman de Bordeaux ce matin. Ils ont terrassé Toulouse 17-7 hier soir. Avec la manière, dans un stade Chaban-Delmas plein à craquer, ils sont en tête du top 14. De bon augure et surtout un bon spectacle pour le rugby qui s'est offert là une belle promotion.
Oui, on a exulté à Chaban-Delmas hier soir. Merci Jean-Pierre Blimeau. Notez enfin que les meilleurs reportages de l'année diffusés sur des médias francophones publics sont à écouter aujourd'hui sur franceinter.fr. Il y en a 5. C'est la finale de ce prix du journalisme. Un jury d'auditeurs désignera le lauréat. Résultat ce soir à 19h.
On suivra ça avec intérêt. C'était le journal de Christelle Rebière. Le temps de ce dimanche.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Avec un temps menaçant aujourd'hui, Jean-Michel Golinski.
Un temps souvent perturbé, venteux, pluvieux, avec de la neige sur tous les massifs et même beaucoup de neige à prévoir sur l'ouest de la chaîne des Pyrénées. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont en vigilance orange avalanche. Le risque d'avalanche est également marqué sur les Alpes du Nord, mais dans un degré moindre. Aujourd'hui, l'ambiance la plus clémente sera pour les bords de la Méditerranée, alors que partout ailleurs, éclaircies et périodes plus menaçantes, avec averses parfois mêlées de neige, vont alterner et aucune région ne sera épargnée, avec tout de même un léger mieux en cours d'après-midi près de l'océan. Le vent sera fort sur l'ensemble du domaine côtier, entre 80 et 100 km à l'heure en général, voire même 120 sur les côtes landaises, dans des températures maximales inférieures de 2 à 3 degrés par rapport à hier sur l'ensemble du pays.
Jean-Michel Golinski, Météo France.